Nous allons donc écouter Stanislas Dehaene, qui est, on commence avec beaucoup de professeurs du Collège de France, donc il devient inutile de les présenter. Vous avez suivi ses cours, vous savez qu'il occupe la chaire de psychologie cognitive expérimentale, qu'il a aussi depuis l'année dernière de hautes responsabilités auprès du ministre de l'Éducation nationale et qu'il préside un conseil scientifique qui est chargé d'étudier comment ça se passe à l'école. Il est aussi l'auteur de nombreux ouvrages sur la psychologie cognitive, sur la lecture, sur le calcul et je ne sais pas s'il est prêt, son titre sera « La nature du langage mathématique, exploration en imagerie cérébrale ».
Pendant que l'ordinateur redémarre, je peux peut-être dire quelques mots pour dire à quel point je suis ému de parler après Alain Cohn. J'aurais peut-être pu être un mathématicien, je ne suis pas devenu. J'ai souffert sur ce théorème dont tu as parlé. Je m'en souviens très bien parce qu'il nous a été posé comme problème du samedi matin en maths sup. Et je l'ai résolu en noircissant trois pages entières de calculs épouvantables, algébriques, sur les coordonnées des points du triangle. Et évidemment, ce n'était pas la bonne approche. Elle avait conduit à démontrer que le théorème était vrai, ce qui est déjà pas mal, après tout. Mais ce n'était pas la bonne approche. Et, plus tard, j'ai lu une démonstration de Conway, qui est absolument magnifique aussi, mais qui ne fait appel qu'aux propriétés géométriques. Le fait qu'effectivement, on a besoin du fait que la somme des angles d'un triangle fait pi. Et de voir aujourd'hui une démonstration d'un niveau d'abstraction encore supplémentaire faisant appel à l'algèbre, je trouve ça absolument magnifique et ça m'intrigue plus que jamais sur le cerveau des mathématiciens dont je vais vous parler et je vais donc essayer de vous parler d'un point de vue infiniment plus concret et plus modeste je pense puisque les résultats scientifiques vous savez dans le domaine de la psychologie et des neurosciences sont pas toujours extrêmement avancés mais de la nature du langage mathématique vu du point de vue du cerveau. Et je voudrais commencer par un point extrêmement simple et, à mon avis, dépassé maintenant, l'idée qu'il existe une pensée abstraite sans langage. On en parlera encore demain avec l'éthologie, avec Martine Jurfa et Joël Fagot. Il y a énormément de preuves que oui, à condition qu'on s'entende ce que c'est que la pensée, c'est-à-dire la représentation mentale d'informations abstraites et absolument universelle dans le monde animal. Et j'ai argumenté avec beaucoup d'autres qu'il existe un sens qu'on peut dire proto-mathématique de l'espace et du nombre chez de très nombreuses espèces animales. Vous savez par exemple que le cerveau de la souris utilise des cellules de grille et de lieu et une sorte de système de coordonnées triangulaires pour cartographier le plan et savoir où elle se trouve. Vous savez peut-être moins que ça existe également chez les fourmis du désert qui sont capables par exemple de naviguer dans l'espace, de quitter leur nid qu'on voit ici, d'avoir une trajectoire qui peut être extrêmement aléatoire pour chercher de la nourriture, mais lorsqu'elles trouvent de la nourriture, de revenir droit à leur nid, y compris lorsqu'on les relâche en un autre point, donc elles ont un sens du vecteur qui pourrait les ramener à leur nid. Elles ont intégré leur chemin, elles font l'intégrale de leur chemin. On pourrait multiplier les exemples. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur le sens du nombre. On sait maintenant qu'il existe un sens du nombre chez le singe macaque, chez beaucoup d'autres espèces d'animaux, qui leur permet d'avoir des cellules accordées à différents nombres d'objets. 1, 2, 3, 4. Est-ce que ce sont déjà des mathématiques? Je ne crois pas. Il n'y a pas de sens de vérité, il n'y a pas de langage formel, et la définition des mathématiques est difficile, mais je pense qu'elle s'applique lorsque on est capable de créer un système fini dans lequel les objets sont parfaitement définis et de jouer avec mentalement, ce qui n'est pas le cas de ces animaux qui appliquent en quelque sorte des systèmes physiques adéquats au monde extérieur. Alors, les mathématiques, évidemment, reposent sur des langages. Ça a été dit dès, par exemple, les écrits de Galilée, l'univers est écrit dans la langue mathématique, mais quels sont ses caractères ? Pour Galilée, ces caractères sont des caractères géométriques, des triangles, des cercles, des figures géométriques, sans le moyen desquels il est humainement impossible d'en comprendre un mot. Je pense que c'est une vision un petit peu restrictive, évidemment, de la langue mathématique. La langue mathématique, comme on l'a vu dans l'exposé d'Alain Cohn, est infiniment variée. Il y a des langues sous forme de diagrammes, il y a des langues sous forme de symboles, parfois abscons, comme ici dans les Principia Mathematica. Il y a des formules mathématiques qui utilisent des mots du langage naturel, mais dans un sens différent, comme l'a dit Alain, de celui habituel. Quel est ce langage, ou quels sont ces langages mathématiques? Quelle est leur nature? Et là, il y a une controverse que je voudrais essayer de traiter par des moyens expérimentaux, qui est la relation entre le langage mathématique ou les langages mathématiques et le langage naturel. On a un premier point de vue qui est celui de Noam Chomsky, évidemment linguiste, et qui ramène les mathématiques dans le domaine du langage en écrivant que les capacités mathématiques trouvent leur origine dans une abstraction à partir des opérations linguistiques. Donc pour lui, avec l'apparition de l'espèce humaine, il y a eu apparition du langage, et c'est le langage qui a permis de développer des systèmes mathématiques, musicaux, avec toujours une sorte de prépondérance l'évolution de la faculté du langage dans l'évolution des compétences humaines. Et puis on a d'autres points de vue très différents, souvent celui des praticiens des mathématiques. Il y en a beaucoup dans le livre d'Adamar qu'Antoine Compagnon a mentionné, par exemple le point de vue d'Einstein qui dit « Les mots et le langage, écrits ou parlés, ne semblent pas jouer le moindre rôle dans le mécanisme de ma pensée. Les antisèptes psychiques qui servent d'éléments à la pensée sont certains signes ou des images plus ou moins claires qui peuvent à volonté être reproduits ou combinés. » C'est un peu le point de vue de Galilée, au départ. Ce n'est pas la langue naturelle qui sert en mathématiques. Alors, on a au laboratoire essayé d'adresser cette question avec un certain contexte, qui est celui que j'ai décrit dans mes livres. Ici, c'est la version anglaise de la bosse des maths, le sens des nombres. L'idée que, bien sûr, nous héritons de notre évolution un certain nombre de ces compétences animales qu'on a vues dans les diapositives précédentes. Notre cerveau a internalisé des représentations non-verbales, pré-verbales, puisqu'elles précèdent l'apparition du langage, du temps, du nombre, et que nous partageons avec de nombreuses espèces animales. Mais il y a quelque chose évidemment de particulier dans les mathématiques humaines, cette capacité de formaliser, sous forme de symboles, ces objets, de les recombiner. Et la question, est-ce qu'ils restent attachés aux systèmes non-verbaux ? C'est le point de vue que j'ai développé avec cette idée de recyclage neuronal, c'est-à-dire que nous faisons des mathématiques en reformalisant des objets qui sont déjà présents sous forme d'intuition initiale, de nombre, d'espace, de temps, et connaissances mathématiques restent attachées à ces noyaux de connaissances non-verbaux dont nous parlera aussi Elisabeth Spelke dans quelques instants. Alors, qu'en est-il ? Comment savoir ? Eh bien, le premier point de départ, c'est l'existence maintenant d'un réseau d'aires du langage dans le cerveau humain qui est bien identifié. Même si on ne connaît pas encore exactement son fonctionnement, on sait en gros où se trouvent les aires du langage naturel dans le cerveau humain. J'en ai parlé dans les cours, c'est une diapositive de synthèse ici qui vous montre qu'il y a toute une série d'expériences, d'imagerie cérébrale, mais aussi de lésions cérébrales, puisque ça a commencé comme ça avec le travail de Broca en particulier, qui nous montre effectivement des activations dans la région dite de Broca, la région frontale inférieure gauche, dans l'hémisphère gauche, et puis un chapelet d'activation ici, le long du sillon temporal supérieur de l'hémisphère gauche. Ces régions ont certainement des fonctions un peu différentes, mais il y a un noyau ici de syntaxe qu'on commence à bien identifier dès qu'il s'agit de manipuler des arbres syntaxiques, s'ils sont ambigus, s'il s'agit de déplacer des arborescences syntaxiques, et on voit s'activer ce réseau de façon absolument systématique dans toutes les langues du monde, et en tout cas dans toutes celles qui ont été étudiées, et y compris, vous voyez ici, dans la langue des signes. La langue des signes est une langue naturelle comme les autres. Ces régions, lorsqu'elles sont lésées, vont conduire les patients à perdre la syntaxe, la grammaire de la langue naturelle. Donc un réseau bien identifié pour le langage naturel, et question, est-ce que ce sont ces régions-là que nous utilisons lorsque nous faisons des mathématiques ? C'est la question qu'on a voulu poser dans la thèse de Maria Malric, qui a étudié le cerveau de mathématiciens professionnels. On s'est posé la question, est-ce qu'on peut aller jusqu'au plus haut niveau possible ? J'aurais voulu qu'Alain Cohn fasse partie des personnes que nous scannions dans l'IRM, ça n'a pas été possible, mais nous avons scanné de grands mathématiciens avec l'idée d'essayer de voir s'ils utilisent effectivement les aires du langage ou bien au contraire d'autres aires non-verbales de leur cerveau. Alors, que faire avec un mathématicien qui vient à Neurospin et qu'on met dans une IRM ? C'est pas évident. Pendant longtemps, j'ai hésité parce que je ne voulais pas qu'on lui fasse faire 2 plus 3. Je crois que j'aurais eu honte de faire venir Alain pour lui demander de faire 2 plus 3. Et finalement, on a trouvé la tâche suivante. On a fait écouter des phrases qui donnent des énoncés, mathématiques ou non mathématiques, et on donne au pauvre mathématicien 4 secondes pour réfléchir, à la suite de quoi il doit nous donner une réponse en cliquant sur des boutons. C'est vrai, c'est faux ou c'est absurde. C'est-à-dire que ce sont des phrases qui n'ont pas de sens. Alors je vais vous faire écouter certaines de ces phrases. Comme je sais qu'il y a des mathématiciens dans la salle, ce sera très facile pour vous de savoir si c'est vrai, si c'est faux ou si c'est absurde. Alors allons-y.
Toute matrice carrée à coefficient complexe est semblable à une matrice triangulaire supérieure.
Vrai ou faux ? Oh, c'est vrai. Je crois que c'est vrai, ça. C'est des choses que j'ai appris moi quand j'étais en maths P ou en maths sup. Alors on va essayer une deuxième.
Il existe une fonction continue de la sphère unité vers elle-même et sans point fixe.
Vrai ou faux? Je vois Alain qui secoue la tête, c'est faux. C'est faux, c'est faux. Mais vous voyez que vous ne savez pas forcément la réponse, mais ça vous fait réfléchir, ça vous oriente votre réflexion dans un certain domaine des mathématiques. Un troisième exemple.
La projection stéréographique admet pour caractéristique de l'air racine de 2.
Alors, Alain secoue la tête massivement parce que c'est une phrase absurde. Mais pour vous qui n'êtes pas mathématicien dans la salle, ce pourrait être des mathématiques, le jargon est là. C'est une phrase qui n'a ni queue ni tête. Je vais vous donner l'équivalent dans le domaine en dehors des mathématiques.
Le drapeau de la pomme de terre a été guillotiné à la fin du concile de Trente.
Voilà, c'est la même chose. Alors, vous nous avions des phrases de tout type, comme ça je vous en donne encore une autre. Dans le domaine non mathématique.
En France, au Moyen-Âge, on buvait de l'alcool issu de la pomme de terre.
Vrai ou faux? Faux. Bah oui, on n'avait pas encore la pomme de terre cultivée au Moyen-Âge. Donc voilà, je vois qu'on a des historiens ici de très haut niveau que nous n'avons pas scannés. Alors vous comprenez un peu la logique de cette expérience, donc des problèmes mathématiques, vrais ou faux, les problèmes absurdes peuvent être rejetés extrêmement rapidement, Alain a secoué la tête en moins de 500 millisecondes, les autres problèmes exigent une certaine réflexion et on n'arrive pas forcément au bon résultat. Et puis nous avions aussi chez les mêmes mathématiciens scanné leurs aires visuelles, vous savez peut-être que les aires sont organisées en une mosaïque de régions spécialisées en particulier pour les visages, les lieux, les objets, mais il y a aussi des régions spécialisées pour les mots, et ça nous intéressait de voir ce qui se passe pour les nombres et les formules mathématiques. Et puis voilà, alors la question des sujets contrôle, c'est un problème. Nous avons fini par converger vers la solution suivante qui était de comparer les 15 mathématiciens professionnels à 15 spécialistes des humanités et des sciences sociales de niveau équivalent. Alors, la difficulté est là. Hein. On a fait de notre mieux. Leur salaire était comparable. Alors, très vite, pour vous dire qu'on a quand même beaucoup travaillé sur ces stimuli, d'ailleurs avec l'aide de collègues mathématiciens, parce que ce n'est pas évident de concevoir des phrases qui soient appropriées pour les mathématiciens, on est arrivé à un bon résultat, puisque vous voyez ici le taux de réussite dans l'IRM de ces sujets. Donc, c'est difficile, ils sont très loin de 100%. Comme il y a trois possibilités, le niveau du hasard est 33%. Ils sont plutôt de l'ordre de 60-70%. Et ce qui est intéressant, donc, c'est que les mathématiciens font aussi bien avec les problèmes de maths qu'avec les problèmes de non-maths. Les contrôles, évidemment, font bien et aussi bien que les mathématiciens avec les problèmes non-mathématiques, mais évidemment ne sont pas capables de juger un tout petit peu mieux que le hasard la nature des phrases mathématiques. Donc on a réussi à masquer ces problèmes absurdes de mathématiques. Ils n'avaient pas l'air absurdes pour des sujets contrôles non-mathématiciens. Maintenant, je vous montre l'activation cérébrale en IRM au moment de la période de réflexion mathématique. Et là, on a observé un résultat tout à fait clair, c'est que les quatre sortes de phrases mathématiques que l'on présentait divergeaient radicalement de la cinquième catégorie, qui était les problèmes non mathématiques. Autrement dit, il y a un réseau cérébral qui s'allume dans le cerveau des mathématiciens dès qu'il y a une réflexion mathématique, que ce soit en analyse, en algèbre, en topologie ou en géométrie, autant qu'on puisse séparer ces problèmes, ce qui n'est pas complètement évident. Vous voyez que ce réseau est très caractéristique, il comprend les aires pariétales, le sillon intrapariétal bilatéral, des régions temporales ventrales, qui étaient beaucoup moins connues, et une partie dorsale du cortex préfrontal, ici, bilatérale également. Et à chaque fois, vous voyez, donc, la phrase se déroule, et à la fin de la phrase, ce réseau entre soudainement en activité, mais pas du tout. Au contraire, il va même se déactiver, souvent, pour les phrases non mathématiques, ici. Donc, vraiment un système caractéristique que l'on voit chez les mathématiciens professionnels, ici, et qu'on ne voit pas chez les sujets contrôle, qui ne font pas la différence entre la valeur de vérité ou non, ou même l'absurdité de ces problèmes mathématiques, ce qui crée une interaction, ce qui fait que ce réseau ici en bleu est caractéristique du cerveau des mathématiciens professionnels, différent du cerveau des autres mortels, si je puis dire. Plus intéressant peut-être, nous n'avons pas observé de grandes différences dans ce réseau entre les différents types de problèmes mathématiques. Donc le principal réseau qui est en rouge ici, c'est ce qu'il y a de commun entre les quatre grands domaines des mathématiques qu'on a étudiés. Mais il y a quand même de petites différences. Alain a mentionné que parfois on fait appel à des objets visuels en mathématiques. Nous avons effectivement trouvé que lorsqu'on travaille en géométrie, il y a un peu plus d'activité dans les régions postérieures du cortex pariétal ici et dans des régions un tout petit peu plus postérieures de la région occipito-temporale gauche, ce qui suggère peut-être un début d'imagerie mentale. Néanmoins, ce n'est pas du tout les aires occipitales, vous voyez. Ce n'est pas
moins une vision extraordinairement concrète, probablement, des problèmes. On est déjà à un haut niveau d'abstraction dans ces aires visuelles. Et puis, nous avons aussi obtenu des jugements individuels pour chaque mathématicien, pour chaque problème. Est-ce que vous avez utilisé une imagerie visuelle ? Et on a trouvé de petits corrélats de l'activité cérébrale, toujours dans ce même genre de région ici, pariétale postérieure, pariéto-occipitale et puis occipito-temporale, mais avec vraiment un degré d'activation assez faible. Vous voyez quand même les problèmes activent ces régions de façon très similaire. Donc ce qui frappe au premier abord, c'est surtout l'aspect commun des mathématiques, l'intégration des différents types de mathématiques vers un réseau commun, et alors un réseau qui n'est pas du tout le même que celui qui est impliqué dans la réflexion sémantique générale. Lorsque vous réfléchissez au Moyen-Âge et aux pommes de terre, eh bien vous activez ces régions en vert ici, qui sont complètement différentes, vous voyez, qui s'allument pour les problèmes non mathématiques, mais pas pour les quatre autres sortes de problèmes mathématiques ici, qui sont bien connus, qui sont un réseau déjà connu dans la littérature pour représenter des aires associées à la réflexion sémantique sur le sens des phrases. Donc les deux pôles temporaux, ici, ou les régions antérieures du lobe temporal, la région du gyrus angulaire, à gauche et aussi à droite, et puis des régions extrêmement mésiales et antérieures du cortex frontal. Alors évidemment, sur cette image, comme c'est mat plus que non-mat ou non-mat plus que mat, il ne peut pas y avoir d'intersection. Néanmoins, nous avons aussi une autre image qui est peut-être plus intéressante, c'est quand lorsqu'on compare les phrases compréhensibles avec les phrases sans signification chez les mathématiciens. Lorsque les phrases n'ont pas de signification, il y a beaucoup moins de travail qui est fait par ces aires cérébrales, et donc ça crée une différence d'activité, et là, il pourrait y avoir un recouvrement entre ces deux réseaux, celui des mathématiques en bleu et celui des connaissances sémantiques générales en vert, mais il n'y a pas de recouvrement. En fait, on utilise des aires complètement différentes pour faire un jugement sémantique dans le domaine de l'histoire ou de la géographie et un jugement dans le domaine des mathématiques. Donc vous voyez ici ces aires qui commencent à s'activer. Voilà par exemple les régions mathématiques ici en bleu, le cortex pariétal. Vous avez un début d'activation pour les phrases sans signification, et puis le mathématicien très vite s'arrête de travailler, secoue la tête, je pense, enfin j'espère que non dans l'IRM parce qu'il ne doit pas bouger, mais il s'arrête en tout cas de travailler. Vous voyez que l'activation s'arrête lorsque la phrase est absurde. Lorsque la phrase a du sens, il y a un travail supplémentaire qui est fait, et cette différence est identifiée ici au niveau de la carte d'activité. Et on a exactement le phénomène inverse, évidemment, pour les phrases non mathématiques. Ici, un début d'activité pour les phrases absurdes, le drapeau de la pomme de terre, et puis ça s'arrête là. Alors qu'il y a beaucoup plus d'activité lorsque vous devez y réfléchir. Donc on a vraiment deux réseaux complètement différents. Et quel est leur rapport avec les aires du langage ? Eh bien, évidemment, quand on écoute une phrase, et dans tous ces cas, on écoute une phrase, on a une activation des aires du langage. Donc je vais vous donner ce chapelet d'aires cérébrales ici, temporales et frontales inférieures. Elles s'activent, bien entendu. Elles s'activent, en fait, de façon transiente liée à la phrase. Vous savez qu'on ne mesure pas directement l'activité neuronale, on mesure le débit sanguin, donc on voit quelque chose qui est un petit peu plus tardif que la phrase elle-même, mais c'est lié à la phrase, c'est l'activation liée à la phrase ici, qui est absolument commune aux cinq types de problèmes. Et ensuite, très vite, l'activation va diverger vers l'un ou l'autre de ces réseaux, suivant qu'on fait des mathématiques ou qu'on est en train de réfléchir à l'histoire ou à la géographie. Si quelque chose, les aires du langage comme le pôle temporal sont plus activées par les problèmes non mathématiques que par ceux en mathématiques. Voilà. Et il y a vraiment quelque chose qui était frappant, c'est que si on fait une cartographie au niveau individuel de l'activation évoquée par le langage, le traitement du langage écrit ou oral, on voit ces régions en rouge ici, qui sont presque complètement disjointes des régions en jaune qui sont impliquées dans le traitement mathématique. Il n'y a pratiquement aucun recouvrement, et quand on regarde un cerveau individuel, il n'y a pas de recouvrement. C'est vraiment des systèmes complètement différents. Alors, quel est ce circuit des aires mathématiques ? Des aires activées lorsqu'on fait des mathématiques, parce qu'elles ne font sûrement pas que ça. Eh bien, ce qui est intéressant, c'est que chez les mêmes personnes, vous avez ici le réseau activé par les problèmes mathématiques de haut niveau chez les mathématiciens professionnels, et vous avez ici les régions qui s'activent lorsqu'elles se contentent de voir des nombres par rapport à d'autres types d'images, ou lorsqu'elles font des calculs avec ces nombres ici en bleu. Et il y a un énorme recouvrement, là encore, entre ces trois types de régions. Et au niveau individuel, on a pu montrer que ce n'est pas juste un recouvrement lié au fait qu'on lisse les images, mais c'est vraiment voxel par voxel les mêmes régions qui s'activent. Donc, ça correspond tout à fait à cette idée de recyclage neuronal. Hein. Lorsqu'un grand mathématicien fait des mathématiques, il réutilise des réseaux qui sont là pratiquement depuis le départ, que l'on voit chez le très jeune enfant, qui sont déjà activés lorsqu'on fait un traitement sur les nombres, lorsqu'on fait un calcul mental. Nous avons tous ces réseaux dans cette salle, même si nous ne sommes pas des mathématiciens professionnels, mais le mathématicien professionnel les réutilise, les différencie, parvient à les faire répondre à des concepts de beaucoup plus haut niveau que le simple concept de nombre. Donc nous connaissions déjà les régions pariétales impliquées dans le sens des nombres, et peut-être moins connue, cette région ventrale ici, qui est impliquée dans la reconnaissance visuelle des nombres bilatérales général ici, ça a été découvert en fait au départ pas par l'IRM et relativement récemment, vous voyez que ce papier date de 2013 ici, ça a été découvert par l'enregistrement avec électrodes intracrâniennes chez des patients épileptiques, chez qui on peut mettre des électrodes pour identifier et diagnostiquer leur épilepsie. On enregistre des réponses de très haute fréquence ici au-delà de 70 Hz, qu'on appelle les réponses dans la bande haut gamma. Et vous voyez qu'une électrode donnée peut être très sensible aux problèmes de maths et pas à d'autres problèmes de mémoire de phrase, par exemple. La résolution temporelle de cette méthode est excellente. Vous avez des électrodes ici séparées de 5 mm seulement. L'une d'entre elles répond aux maths. Au milieu, pas de réponse. De l'autre côté, une réponse très forte à la mémoire verbale. Et quand donc, nos collègues de Stanford ont fait cette image, ils ont montré qu'il y avait une région ventrale ici. Au départ, ils l'ont trouvée à droite, mais avec plus d'électrodes, on la trouve aussi à gauche, qui répond exclusivement aux chiffres arabes, qui ne répond pas aux lettres, très peu aux lettres, et pas du tout aux faux chiffres, aux fausses lettres, aux chiffres étrangers qui ne sont pas connus du sujet. Donc une région très spécialisée pour les objets mathématiques que sont les nombres. Et nous nous sommes posé la question, évidemment, de savoir ce que faisait cette région chez nos grands mathématiciens. Alors voilà un petit peu à quoi ressemble cette mosaïque de régions dont je vous parlais tout à l'heure, chez les mathématiciens et chez les sujets qui nous ont servi de contrôle ici. Vous voyez que chaque couleur indique une préférence pour une catégorie d'objets. Donc par exemple, en rouge, vous avez la région bien connue de réponse au visage, qui existe dans l'hémisphère gauche, mais qui est surtout présente dans l'hémisphère droit, ici, et on la voit en rouge. Et latéral à cette région, vous avez les réponses. Alors, les réponses aux mots, on les voit pratiquement pas, on les voit un tout petit peu ici en rose, ici, c'est cette région de la forme visuelle des mots. Et encore plus latéral, vous avez les réponses aux nombres et aux formules mathématiques. Les réponses aux formules mathématiques ne sont pas inexistantes, puisque ce sont des objets visuels chez les personnes qui ne sont pas mathématiciennes, mais vous voyez qu'elles sont beaucoup plus grandes et intense chez les personnes qui sont devenues des mathématiciens professionnels. C'est quelque chose qu'on a pu valider. Il y a une augmentation de la réponse d'une région qui existe chez chacun d'entre nous, à nouveau, hein, qui répond au nombre, qui continue de répondre au nombre, mais avec une force supérieure chez les mathématiciens, et qui répond surtout aux formules mathématiques, à tout cet éventail de notations mathématiques que le mathématicien doit maîtriser lorsqu'il a été entraîné. Donc c'était une différence significative. Au passage, je voudrais vous en montrer une autre qui est peut-être intéressante, mais qui reste encore à explorer. Mais vous voyez qu'on voit le cerveau entier, on voit toutes les catégories d'objets ici. Donc est-ce que vous pouvez deviner quelle est la catégorie d'objets qui montre un effet dans l'autre sens, c'est-à-dire où il y a moins d'activité cérébrale pour les mathématiciens que pour les sujets contrôle? Eh bien, les visages. Eh bien oui, on a trouvé, c'était de façon un peu inattendue, comme ça, que si on regarde en cerveau entier, la région de l'hémisphère droit qui est impliquée dans le traitement des visages est beaucoup moins activée chez les mathématiciens que chez les sujets contrôle. Alors, ceci, c'est un résultat de pure imagerie cérébrale, hein, ça ne veut pas dire qu'il y a des conséquences comportementales. Néanmoins, nous connaissons tous des mathématiciens, j'ai failli en être un moi-même. Vous savez, c'est l'occasion, je pense, de vous raconter une blague, puisqu'Alain a commencé avec des histoires. Vous savez à quoi on reconnaît un mathématicien extroverti? C'est celui qui regarde vos chaussures. Donc, il est possible, effectivement, mais le problème de la causalité est posé par ces expériences ici. Nous avons une différence cérébrale qui est claire, qui est significative. Évidemment, nous ne pouvons pas savoir dans quelle direction fonctionne la causalité. C'est-à-dire, est-ce que l'apprentissage des mathématiques a interféré un moment avec l'organisation de ce système pour les visages, ou bien est-ce qu'il y avait des différences au départ qui ont conduit certains mathématiciens à s'intéresser plus aux mathématiques qu'à d'autres choses? Nous ne pouvons pas le savoir, et je m'arrête là sur ce sujet qui est difficile. On n'a pas de plus de données pour l'instant que cette observation. Alors, je vais peut-être passer là-dessus parce que je crois que je n'ai pas de temps. Je vais juste vous dire que ce résultat qui a été obtenu avec des faits mathématiques extrêmement complexes, Maria Malric, dans sa thèse, l'a répliqué plusieurs fois, avec notamment des problèmes mathématiques beaucoup plus simples. On n'a pas besoin de scanner des mathématiciens professionnels, on peut scanner des topins comme je l'étais en maths sup ou en maths spé. Ce qui était intéressant, c'était de voir si ça restait vrai même pour des problèmes algébriques. Par exemple, tout le monde connaît par cœur A plus B fois A moins B égale à 2 moins B2. Bon, est-ce que ça, c'est déjà du domaine du langage, ou bien est-ce qu'on active tout de suite le réseau des mathématiques? Est-ce qu'il y a une notion de par cœur, de connaissances mémorisées qui ferait appel aux aires du langage? Donc nous avons étudié d'autres domaines des mathématiques. Notre idée était aussi de voir si, lorsqu'il y a vraiment une sorte de géométrie Dans le domaine des nombres complexes, par exemple, eh bien, lorsqu'on visualise le cercle des nombres complexes, le cercle des puissances des racines de l'unité, est-ce qu'on peut voir s'activer des régions visuelles. Et puis, nous avions fait une deuxième expérience qui allait un petit peu plus loin aussi, qui essaie de dire, est-ce qu'il n'y aurait pas au sein du langage l'activation du réseau mathématique. Lorsque vous énoncez une phrase comme « certaines plantes vertes ne sont pas grimpantes », il y a de la logique là-dedans, il y a un quantifieur, il y a une négation. Est-ce qu'il suffit d'ajouter une forme de logique à l'intérieur du langage pour commencer à activer les aires mathématiques? Ou bien est-ce qu'on continue d'observer une séparation simplement liée au vocabulaire, hyperboloïde, sinus, etc. Cette expérience était aussi intéressante parce qu'on est vraiment allé à des choses extraordinairement simples. On n'a plus cette période de réflexion. D'ailleurs, la période répond immédiatement. Hein. On dit la fonction sinus est périodique et n'importe quel mathématicien vous dit oui, bien sûr, c'est vrai. Versus les bus de Londres sont rouges. Vous voyez, vous pouvez répondre de façon tout à fait immédiate. Eh bien, les résultats ont été entièrement répliqués avec ces expériences et ils continuent d'avoir une séparation majeure entre l'effet mathématique et l'effet dans les autres domaines. Même s'il y a des négations dans les phrases, par exemple, ça ne suffit pas à activer le réseau en bleu ici, qui est ce réseau qu'on voit activer pour les problèmes mathématiques. Et inversement, il suffit de poser la question « est-ce que la fonction sinus est périodique ?» pour avoir immédiatement une activation de ces régions. Vous voyez, ce qu'on perd ici, c'est on perd l'activation des régions frontales. On a l'impression que la connaissance en question devient tellement automatisée qu'elle se concentre dans les aires postérieures du cerveau. Mais ce sont quand même les mêmes aires qu'au départ, donc les régions pariétales bilatérales, temporales inférieures bilatérales, alors que ce sont les régions temporales antérieures qui stockent vos connaissances non mathématiques. Question supplémentaire qui nous a été permis de poser, grâce à des suggestions, en particulier Cédric Villani, on a découvert, j'aurais dû le savoir évidemment, qu'il existe aujourd'hui en France des mathématiciens de très très haut niveau qui sont aveugles et qu'il n'est pas du tout impossible d'être un grand mathématicien lorsqu'on est aveugle. Il y a des cas historiques qui sont bien connus et qui sont cités par exemple dans la lettre aux aveugles de Diderot, c'est le cas de Nicolas Sanderson, qui est devenu aveugle dans sa première année de vie et qui est devenu un très grand mathématicien au point qu'il a occupé la chaire de Newton à Cambridge. Alors, question intéressante, est-ce que ces mathématiciens utilisent les mêmes régions cérébrales que les autres? Est-ce que, parce qu'ils ont dû développer des moyens, par exemple, tactiles d'accès aux mathématiques, est-ce qu'ils vont activer d'autres régions très différentes qui seraient associées à la modalité tactile? Est-ce que peut-être ils ont une plus grande implication des aires du langage? Parce que, après tout, ils doivent se reposer moins sur la vision et plus peut-être sur la communication avec les autres. On a pu scanner 3 mathématiciens professionnels à Neurospin, donc c'est un petit groupe, les résultats sont à prendre avec précaution, mais grosso modo, la première observation, c'est que dans les mêmes expériences, le même réseau d'aire cérébrale que chez les mathématiciens voyants, avec une vision normale, s'active. Donc ici, vous avez cette fois-ci 14 mathématiciens dans l'expérience 2 de Marie Amalric. Vous retrouvez ce réseau ici, dans un cerveau qui est légèrement lissé, gonflé. Et vous avez ici les mathématiciens aveugles qui ont donc toujours cette activation bilatérale du cortex pariétal, ventrale, latérale, occipito-temporale. Ça atteignait le seuil à gauche, mais il y avait la même chose un petit peu à droite, etc. Donc, des réseaux très similaires avec une différence qui nous avait été signalée d'ailleurs par Cédric Villani. Cédric Villani nous avait dit, je peux donner le nom, c'est un très grand mathématicien, Emmanuel Giroux, qu'on avait scanné. Et Cédric nous a dit, oui, Emmanuel Giroux, c'est vraiment un très très grand mathématicien, il a démontré un théorème majeur, mais finalement, son mérite n'est peut-être pas si grand parce qu'il a plus de cortex à dédier aux mathématiques. Et pourquoi pas? C'est vrai, après tout, il y a ce cortex visuel qui est là, qui n'est pas alimenté par la vision. C'est une blague, évidemment. Donc, ce cortex visuel reste-t-il inactif du fait qu'il n'y a plus d'entrée visuelle? Eh bien, pas du tout. On le savait déjà pour le traitement du langage. C'est vrai aussi pour le traitement des mathématiques. Et donc, dans nos deux expériences ici, il y a systématiquement plus d'activité du cortex visuel lorsqu'un mathématicien aveugle fait des mathématiques que lorsqu'un mathématicien voyant fait des mathématiques. Ça n'est pas probablement un contenu visuel, c'est un contenu mathématique abstrait qui est sollicité ici, mais ce cortex dit visuel a pu se recycler pour se réorienter vers le traitement des objets mathématiques. Donc, plusieurs conclusions de tout ça. D'abord, que le réseau des mathématiques peut se développer en l'absence de toute expérience visuelle, qu'il y a une forme de recyclage du cortex visuel, mais que grosso modo, c'est le même réseau. Il y a un réseau abstrait dans le cerveau humain, indépendant des aires du langage, et qui va se mobiliser, quelle que soit l'expérience sensorielle des individus, qui n'est pas un réseau des aires visuelles primaires, qui est un réseau de haut niveau d'abstraction. Alors, je voudrais juste terminer, je pense que j'ai encore peut-être 2 minutes, ou 3 minutes, pour vous dire que cette question du langage mathématique nous intéresse beaucoup, et je ne suis pas sûr qu'il y ait besoin d'aller jusqu'à un niveau extrêmement élevé d'abstraction pour voir se déployer déjà cette compétence humaine tout à fait particulière de recombinaison des concepts mathématiques. Et nous avons étudié, je suis allé un tout petit peu trop vite, nous commençons à étudier cette question en essayant de créer des langages formels, minimaux, dans lequel il y a cette propriété particulière d'un langage de créer des combinaisons de concepts et d'augmenter la complexité des concepts par recombinaison. Et nous sommes arrivés à un test extraordinairement simple, tellement simple qu'un enfant de maternelle peut le passer. Ici, c'est la version pour enfants de maternelle, qui fait déjà appel à cette notion de recombinaison des concepts mathématiques. Donc je vous fais passer ce test, c'est extrêmement simple. Vous avez un petit poisson qui s'appelle Bloop. Il peut se cacher dans les mares qui sont là. Il y a 8 mares, vous voyez, qui sont comme par hasard organisés sous forme d'un octogone. Hein. Et Bloop va se cacher dans différentes mares et vous devez deviner où est-ce qu'il va aller ensuite. Voilà. Alors, vous savez où il va aller, là ? Là, là et là. Vous êtes d'accord ? Bon. Alors, c'est quand même extraordinaire. Il n'y a pas un réseau de neurones qui est capable de faire ce que vous venez de faire. Je vous ai donné des instructions absolument minimales. Vous n'avez eu même pas la séquence complète. Hein. Vous avez eu 5 éléments de la séquence et vous savez donner le 6e, le 7e, le 8e. Vous faites cela parce que vous avez perçu une régularité. Et la régularité est mathématique, en quelque sorte. La régularité peut être décrite par un langage mathématique qui fait appel à des primitives extrêmement simples. Passer au suivant, passer au deuxième suivant, et puis et des symétries par rapport aux axes. Et là, vous avez vu un zigzag qui peut être décrit comme plusieurs segments horizontaux en redémarrant à chaque fois au point suivant, ce que donne cette formule ici. Donc on a conçu un petit langage mathématique, mais tout ce que vous devez faire ici, c'est d'anticiper le point suivant, et on peut faire une autre tâche qui est simplement de mémoriser les items, et votre performance dans cette tâche est définie par une mesure qu'on appelle la longueur minimale de description, ou complexité de Kolmogorov, c'est-à-dire à quel point vous pouvez comprimer les informations que vous avez mémorisées en utilisant ce langage de la pensée, et la formule dans le langage intérieur est minimale. Voilà. Plus la formule est minimale, donc plus la longueur de description est petite, plus les performances des sujets sont bonnes, et on a une assez bonne relation ici entre les performances et cette variable de complexité. Ce qui est intéressant, c'est que nous avons fait ça chez des adultes. Bon, ils sont éduqués en France, ici, mais ça marche aussi chez les enfants de maternelle, avec des exceptions que je n'aurai pas le temps de discuter, et y compris chez les Indiens d'Amazonie. Donc il y a vraiment une sorte de langage spatial, universel, qui s'applique indépendamment de l'éducation qu'on a reçue, et qui permet de formaliser, en quelque sorte, ce micro-domaine des mathématiques ici, et de comprimer les informations. Le langage ici est vu comme un compresseur d'informations. Alors, on peut aller assez loin avec cette tâche. Par exemple, on n'a pas besoin de donner la moindre instruction au sujet, on peut juste lui dire « tu vas suivre du regard ce qui se passe ». Donc tu vas suivre, voilà, et tu suis. Et en fait, quand on demande à une personne de suivre, évidemment, si elle comprend, elle ne fait pas que suivre, elle anticipe. Et le regard anticipe la position suivante, et si on regarde simplement les anticipations en fonction du temps, ici on voit que dès que la séquence est régulière, ce sont les séquences en bleu, les anticipations deviennent massives et traduisent en fait la structure de ces séquences, traduisent cette espèce de langage interne. Et on retrouve cette relation entre les anticipations et la structure du langage. À ce moment-là, on peut scanner les sujets. Je suis obligé d'aller très vite, mais on scanne les sujets qui sont en train de faire cette tâche élémentaire et on voit que les formules, la complexité de la formule mentale qui leur permet de coder les séquences spatiales corrèle directement de façon positive avec l'activation de ce réseau d'air répondant aux mathématiques, y compris toujours les régions pariétales. Ça déchange jusqu'à la région de Broca et en fait la région de Broca est celle qui corrèle le plus avec la complexité de la formule. Mais quand je dis la région de Broca, c'est un terme extrêmement flou. En fait, on est juste dorsaux aux aires traditionnelles du langage. Vous voyez, c'est très en haut dans le cerveau. Et si on compare formellement avec les aires du langage dans le même sujet, on retrouve le résultat précédent, c'est-à-dire que les aires du langage ne sont pas concernées par ces régions en jaune ici qui sont activées par cette tâche de géométrie spatiale. Par contre, les aires qui sont activées se recouvrent très largement avec les aires qui sont impliquées dans le calcul mental, par exemple. Donc on retrouve ce résultat que on a besoin d'un langage géométrique pour décrire ce qui se passe dans cette tâche. Même les jeunes enfants appliquent tout de suite un langage géométrique. Ce langage ne fait pas appel aux aires traditionnelles du langage. Alors, je vais terminer en disant que toutes ces études posent évidemment la question de la singularité de l'espèce humaine et de l'apparition dans l'espèce humaine d'une compétence particulière pour le langage mathématique. Et il existe des artefacts très rare, mais extrêmement intéressant, évidemment, qui suggère que peut-être ce langage de la géométrie existe déjà depuis un certain temps. Ici, vous avez un morceau d'ocre qui a été découvert en Afrique du Sud, dans lequel vous voyez un réseau de triangles qui sont pas loin d'être équilatéraux, formés en fait de lignes parallèles qui se croisent. Donc il y a vraiment le concept de parallélisme, d'angle, de reproductibilité des longueurs, etc., qui est présent ici. Et extrêmement intéressant, on peut remonter encore plus loin, et il y a ce coquillage qui est évidemment une pièce tout à fait unique, dans lequel on voit un zigzag qui a été tracé, et ce coquillage daterait de 540 000 ans, ce qui veut dire que ça n'est pas Homo sapiens, c'est Homo erectus. Donc les résultats que je vous présente ouvrent la possibilité, qui est une spéculation, que le langage mathématique et la capacité de combiner les concepts aient évolué de façon très ancienne dans l'espèce humaine. Ça n'est qu'un zigzag, mais pour décrire ce zigzag d'un point de vue mathématique, il faut faire appel déjà à des concepts très abstraits, et le paléoanthropologue qui découvre un tel objet n'a aucun doute qu'il s'agit d'un humain. Aucune autre espèce animale qui produit ce type de représentation graphique, même si elle paraît relativement simple. Et donc, il y a une possibilité qui me paraît intéressante, c'est que nous ayons dans un premier temps développé des aires cérébrales qui ne sont pas celles du langage naturel, mais qui nous ont permis de conceptualiser le monde extérieur, de le formaliser et de commencer à faire des mathématiques. Et ensuite seulement, peut-être dans un deuxième temps, des aires cérébrales associées à la communication par le biais du langage naturel qui sont différentes, mais qui nous ont permis de transmettre les uns aux autres ce que nous avions découvert et de bénéficier donc de cette communication sociale qui est aussi propre à l'espèce humaine. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là-dessus et vous remercier de votre attention.